C'est un moustique qui est venu hier soir et qui t'a piqué, ça te gratouille. Raté! Dans un monde parfait, ça n'arrive pas à un truc pareil. Si Dieu est parfait, il crée un monde parfait! Ce jour dédié pour que Mordechai Eliezer ben Cyril et que Salomé bat Cyril, les deux se marient super, super, super rapidement. Amen va amen. La question de Nissim.
Pourquoi le monde a été créé?
Pourquoi le monde a été créé? Très bonne question. Et si on vit dans un monde, il faut comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'en 1965, le monde des astrophysiciens pensait que le monde a toujours existé. C'est la théorie grecque. Et des grands astrophysiciens juifs non pratiquants, bien sûr, sont allés montrer à Einstein que du point de vue des chiffres, c'est impossible. Il y a eu un début. Il n'a pas voulu accepter. Le type est revenu 2 ans plus tard et dit « Vous m'agacez ». Pourquoi? Parce que s'il y a... Le monde a toujours existé, alors il n'y a pas de créateur. C'est comme ça, c'est une réalité. On ne sait pas d'où elle vient, mais c'est comme ça. Mais si le monde n'existait pas et un beau jour, tac, il a commencé, donc il y a un créateur. Et ça, c'est super cassé pour Einstein parce qu'il voulait faire la belle vie. Je ne sais pas, je connais pas sa vie privée, mais j'imagine avec les cheveux longs comme ça, il devait fréquenter les filles, etc. Devenir pratiquant, c'est super casse-pied. Donc c'est bien plus simple de dire qu'il n'y a pas de créateur. En 1965, deux employés de la société des téléphones anglaise Bell, qui s'appelait, un s'appelait Wilson, l'autre s'appelait Penza. Penza Wilson reçoivent le prix Nobel de la science pour avoir découvert l'onde le son, d'accord, du Big Bang. Ils ont pris leur antenne, ils ont commencé à mettre de tous les côtés, puis il y avait un bruit qui dérangeait. En fait, il s'avère que c'est l'écho qui se balade encore dans le monde du Big Bang. Donc on sait que les astrophysiciens disent 13,7 milliards années, il y a eu un Big Bang, il n'y avait rien, tout coup il y a eu. Nous on dit que c'était à 5785 ans, et 2 mois et 7 jours, d'accord. Comment concilier ce que dit l'astrophysique et la Torah? On a fait un cours là-dessus qui s'appelle l'âge du monde, 4 cours, vous allez avoir toutes les réponses, des réponses scientifiques, d'accord, c'est phénoménal. Donc le monde est créé. En tout cas, il n'y avait rien, tout coup il y a eu. Et dire que comme ça, pling, par hasard, tout à coup, boum, ça me fait tellement rigoler, tout à coup, boum, il y a un truc comme ça, et tu as un monde aussi parfait, tu as un grand astrophysicien, c'est l'écrit qui date d'il y a 30 ans, il s'appelait Trinh Xuân Thuận, d'accord, vietnamien, qui lui dit c'est clair qu'il y a un dieu qui existe, qui est à la base de la création. Et la majorité des astrophysiciens aujourd'hui sont croyants, puisqu'ils comprennent que c'est complètement impossible que ce soit le fruit du hasard. Il prend une donnée, il dit. Au début, il y a eu le Big Bang. Je vais arriver à ton sujet, hein, le pourquoi de la vie, j'espère que je vais y arriver. Le pourquoi du monde. Pour dire d'abord qu'il y a un créateur. Une des données, c'est qu'il dit comme ça. Comment ça commence le Big Bang? C'est une petite boule. Quand j'étais au collège, il y a 50 ans, ils ont dit qu'elle est grande comme une balle de ping-pong. Depuis, ils ont réduit. C'est toute petite, dans laquelle il y a toute la masse du monde. Une température de milliards de degrés. Parce que c'est tout condensé. Et tout à coup, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Et on voit la lumière. Premier mot de la Torah, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Bon, d'accord. Lumière. Et on a la création d'une soupe de particules élémentaires dans tout l'univers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Grâce, il y a 4 forces. Je m'y connais un tout petit peu dans ce sujet, parce que c'est passionnant. Ça, on lit ça dans les toilettes, d'accord. Quand on s'ennuie dans les toilettes, on lit des bouquins d'astrophysique. Comme ça, on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Alors, il y a 4 forces dans le monde. Une des forces, c'est le fait que lorsque là c'est un objet qui tombe, c'est quoi? Les masses s'attirent, la gravitation en Newton, d'accord? C'est qu'un objet au bord de la mer, il tombe à la vitesse de 9,81 m à la seconde. C'est une des 4 forces qu'il y a dans l'univers. Les masses s'attirent, c'est pas qu'il y a un aimant au milieu de la Terre ou des choses comme ça, de ces bêtises-là. Chaque masse, elle attire. Donc si maintenant je prends ce mouchoir-là, le mouchoir, il a une masse, il attire la Terre vers lui, mais très peu, parce qu'il a une masse de rien du tout. Par contre, si je la tique, il tombe. Pourquoi il tombe? Parce que la masse de la Terre attire sur la Lune, qui est une masse plus petite. Ben, le mouchoir, il va tomber comme ça. Et sur Jupiter, il va tomber comme une tonne. Les femmes qui sont un peu lourdes, c'est bien d'aller se peser sur la Lune. Elles pèseront beaucoup moins, d'accord? Parce qu'elles sont moins attirées par la masse de la Lune. Donc on a une soupe de particules élémentaires. Et grâce à cette force d'attraction, elles vont s'attirer l'une à l'autre, elles vont former des molécules. Et les molécules vont... Non, elles vont former des atomes. Et les atomes vont former des molécules, les molécules un peu plus grosses, etc., les étoiles, etc. Et le monde est créé ainsi. Trinh Xuân Thuận explique qu'il fallait que cette soupe de particules élémentaires ne soit pas trop dense. Parce que si elle est trop dense, alors les particules se rapprochent ensemble, et à la fin, on aura un big crunch, un big bang, et un big crunch, tout se remet ensemble, c'est terminé en une seule boule. Il ne fallait pas non plus que la soupe de particules élémentaires soit trop éloignée, trop diluée. Parce que dans ce cas-là, on s'adresse à l'état de particules élémentaires. Tu en as une ici, tu en as à 10 000 km une autre, ça ne fait rien du tout, on ne peut pas se rapprocher, ça reste comme ça. Il fallait exactement le bon dosage, que ce soit ni trop dense, ni trop dilué. Il dit, ce dosage est extrêmement précis. Précis comme quoi? Comme la précision qu'il faudrait pour quelqu'un qui tire à l'arc pour toucher une cible qui fasse un centimètre de côté de grandeur. Quelqu'un fait du tir à l'arc ici? Tu mets ta cible à un mètre de ton arc, tu tires, bon, tu risques de toucher vraiment la cible qui fait un centimètre de côté. Tu la mets à 10 mètres, ta cible, déjà beaucoup plus dure. À 100 mètres, carrément impossible. Trinh Xuân Thuận dit qu'il faudrait une précision pour arriver à ce dosage entre de particules élémentaires qui ne soient pas trop diluées et pas trop denses, comme la précision qu'il faudrait pour un archer qui se trouve à un bout du monde, et qui envoie une flèche à l'autre bout du monde, 13,7 milliards d'années-lumière. Et du premier coup, il touche une cible qui fait un centimètre de côté. C'est impossible. C'est impossible. C'est une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. C'est impossible. Vas-y, tire maintenant d'ici sur la Lune. La Lune se trouve à une seconde lumière de la Terre. Le Soleil à 8 minutes. On te parle de 13,7 milliards années-lumière qu'on ne peut même pas imaginer. On connaît le chiffre, mais personne ne peut l'imaginer. C'est inimaginable, c'est tellement grand. C'est gigantesque. C'est le monde. Ça, c'est un détail. Après, il y a même encore d'autres détails. C'est clair, il y a un créateur. Donc, le monde est créé. S'il est créé, la question se pose. Dieu, comme ça, pour rien, ping, il crée un monde aussi parfait avec le fleuron de tout le monde. C'est l'être humain. Le fleuron de l'être humain, c'est le peuple juif. Le fleuron du peuple juif, c'est les Bnei Torah, les étudiants de Torah. Pour rien. Pour rien. Il y a une raison. C'est ta question. La raison est très simple. Dieu est bon. Il est parfait. Et ça fait partie de la perfection d'être bon. Étant donné qu'il est bon, il veut octroyer le bien. Donc il crée un monde pour octroyer le bien. Et il crée ce monde. Et nous, quand on voit le monde, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Franchement, un coup dans l'eau, hein? Raté. Ce monde, mais c'est terrible, c'est un monde de souffrance, un monde de mensonges, un monde de maladies, un monde de... Il faut gagner l'argent, il faut le faire le bac maudit, après il faut travailler. Et après tu te maries, tu crois que tu vas être heureux avec ta femme, Shlombaï, t'as la panime complètement terrible, d'accord? Les enfants que tu peines pour les éduquer, ils partent en cacahuètes. Terrible, fournir, tu crèves avant de crever, ensuite tu souffres de la vieillesse. C'est un monde terrible. Elle est où la bonté de Dieu? Tu dis non, mais aussi un peu de bien. Non, mais je comprends pas. Dieu, il est parfait. Parfait. Donc, s'il crée un monde qui n'est pas parfait, qui est presque parfait, il manque un milliardième de perfection entre la perfection et le monde qui a été créé. C'est rien. Alors, tu peux dire, bah, alors Dieu, il est bon. Non, impossible. Si Dieu est parfait, il crée un monde parfait. Et nous, on tourne la tête à gauche et à droite, et on va rater, complètement rater. Si t'as un moustique qui est venu hier soir et qui t'a piqué, ça te gratouille, rater. Dans un monde parfait, ça n'arrive pas à un truc pareil. Et c'est pas le moustique, c'est les chimiothérapies, c'est les divorces déchirants, c'est les redressements fiscaux, c'est un chemichement, se lever tous les matins déjà, rien que ça. D'accord? Comme les gens souffrent pour se lever le matin. Réponse. Dieu est parfait. Et quand il crée ce monde pour donner, il donne la perfection. C'est quoi la chose la plus haute, la plus grande, la plus parfaite que Dieu puisse donner à l'humanité?
La Torah.
Mieux que la Torah.
Lui.
Lui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans la réalité? Dieu. Dieu crée un monde et dit, écoute, je te propose moi. C'est bon? Il n'y a pas mieux, hein? C'est mieux que tout ce que tu peux imaginer. Ok. Alors, on n'est pas beaucoup avancé, parce que le monde, franchement, il n'est pas génial. Alors, c'est quoi que Dieu offre lui? C'est quoi lui? On ne sait pas. Qui est Dieu? On ne sait pas. On sait qu'il est un, on sait qu'il est omnipotent, on sait qu'il est infini, qu'il est partout. On sait qu'il est le maître de tout. Et qu'il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que dans le monde, il y a plusieurs règnes. Minéral, végétal, animal, humain et les anges. Dans tous ces règnes, à part dans le règne humain, il n'y a rien qui a lieu sans que Dieu ait programmé. Mine minérale, tu avais un morceau de granit, j'aurais bien voulu être un diamant. Bah, t'es granit, tu es, granit, tu resteras. Une herbe voulait devenir rose. Une belle rose, d'accord? Bah, tu restes une herbe. Le chien, est-ce qu'il a un libre arbitre? On peut croire, il n'a aucun libre arbitre. Il y a sa nature. La nature des animaux, elle est très simple. Fuir la souffrance, rechercher les plaisirs. À peu près comme 99% de la population mondiale, d'accord? Fuir la souffrance, rechercher le plaisir. Donc, si tu vois maintenant, tu proposes un bel os à un chien avec un gourdin, et lui, il regarde le gourdin, il regarde le non-os, alors ça dépend. Si c'est un chien gâté du 16e arrondissement qui sort de chez le coiffeur, rien qu'il voit le gourdin, il tombe dans les pommes, d'accord? Il ne touche pas le non-os. Tant pis, j'ai au moins un non-os aussi bon que cela chez moi à la maison. Mais si c'est un chien, un bulldog qui sort du Bronx, d'accord? Et pour avoir une petite arête de poisson, il doit se bagarrer avec d'autres chiens. Quand il voit ce non-os, il tombe dans les pommes. Il dit, bah, des coups de gourdin, j'en ai toute ma vie. Donc il va faire un choix entre souffrance et plaisir. Et ce qui sera le plus fort, c'est comme ça qu'il va choisir. Comme nous. Le matin, tu dois te lever. Alors si tu n'arrives pas à l'heure, tu as le directeur, tu as le Rav Shaya, il va te regarder de traviole, d'accord? Et tu ne sais pas quoi faire. Alors tu restes le maximum de temps pour pouvoir comment tu peux rester encore un peu au lit après. D'accord? Tout ça, c'est un choix en souffrance et plaisir. Ça, c'est les animaux. Donc, ils n'ont en fait aucun libre choix, c'est leur nature qui décide. Nous aussi, très souvent, on agit par la nature. Quelqu'un, il va au bistrot, et il choisit à la carte. Il va choisir en fonction de quoi? De ses goûts, du prix, la frime qu'il veut faire peut-être, d'accord? Il a invité sa fiancée, il va la jouer super riche alors qu'il n'a pas un sou. Tout cela, ce sont des arguments naturels. Il n'y a pas de choix. Lui, il va regarder où il y a le moins de souffrance pour le gain le plus grand. C'est comme plaisir et souffrance. Et il va choisir en fonction de sa nature. Ou même, il n'a pas tout ce que je dis. Il doit choisir entre jus d'orange et jus de pomme. Il ne choisit pas du tout. C'est sa nature qui préfère le jus de pomme que le jus d'orange. Si le jus d'orange a l'air très bon, il y a un problème de cache-route. Le jus de pomme, il n'y a pas de problème de cache-route. Mais il a très envie du jus d'orange, le problème de cache-route, il est minime. Là, il y aura un choix déjà. On va en parler tout de suite. Les anges non plus, ils n'ont pas le choix, pour dire que dans tous les règnes. L'être humain, il a un libre arbitre. Dieu va lui donner la Torah. Il dit, moi, je veux maintenant que tu pratiques les lois de ma Torah. Il va donner une nature, qu'on appelle Yetzerara, le mauvais penchant, contraire aux ordres de la Torah. Il faut de l'argent, t'es avare. Il faut être bon, t'es énervé. Il faut prier à Dieu, ça te casse les pieds. D'accord, il faut lire la Torah, tu aimerais bien aller boire un pot avec les copains. D'accord? Tu as des mitzvot sans cesse, des ordonnances qui sont contraires à notre nature. Et là, tu as un libre arbitre. Donc, contrairement au règne minéral, végétal, animal et les anges, qui sont que des robots. Ils n'ont aucun libre arbitre, rien. C'est quoi un robot? C'est rien, ça n'existe pas. On ne peut pas dire que ça est. Par contre, l'être humain, il est. Pourquoi? Parce qu'il peut choisir. Et en cela, il ressemble à Dieu. C'est ça le cadeau que Dieu va donner à l'être humain. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est, mais on sait qu'il est. C'est ça son nom. Son nom, c'est Yud Kei Vav Kei, sa contraction de trois mots. Hayah Hovev Yeh, celui qui était, est, sera l'être suprême. Il va dire, je te donne maintenant aussi, toi aussi tu vas être. Et pas seulement être dans la mesure où tu peux choisir, donc tu existes et tu choisis. C'est un robot, tu n'existes pas, c'est rien. Mais tu choisis. Mais quand tu vas choisir de faire ma volonté, tu vas devenir divin. Quand on fait un acte qu'on appelle une mitzvah, on reçoit des parties divines. Mitzvah, c'est composé de quatre lettres. Mem tzadik vav he. Les deux dernières lettres vav he sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Yud ke vav ke. Les deux premières lettres du mot mitzvah sont mem tzadik, sont en atbash. C'est quoi le atbash? Atbash, c'est un alphabet mystique, tu dis la Kabbalah, d'accord? Le aleph, première lettre de l'alphabet, correspond au taf dernière. Bet, deuxième lettre, correspond au shin avant-dernière. Gimel, resh, dalet, kouf, etc. Les lettres, même tzadik, les deux premières lettres du mot mitzvah, sont en atbash les lettres yud et puis hey, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité qui s'appelle yud ke vav ke, qui était et sera infinie, divine. Et tu reçois ça. Un point tel, que la Gemara, dans le traité Bava Batra, page 75b, dit, à dire à Rabbi Yochanan, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Tu vois un tzadik, tu l'appelles Dieu. Elohim, Shakai, Yudke Vavke, Kel. Et un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a mal fini sur une croix, il faut faire attention, d'accord. Ils m'ont écrit d'ailleurs. Ils m'ont écrit, vous voyez, donc ça, c'est normal. Mais non, mais mon cher ami, je dis à la fin des temps, pas il y a 2000 ans, tu seras divin, tu deviens un être divin. Et un beau jour, t'enlèves ton habit de peau et tu es revenu Dieu en tant qu'être qui est et qui est d'amplitude divine. Alors le cadeau, il est divin ou pas? Il est parfait? Complètement parfait. Mais, pour être, il faut choisir. Pour choisir, il faut un choix. Pour qu'il y ait un choix, il faut créer le bien, la parole de Dieu et l'antithèse, le mal, le mensonge. Maintenant, on pourrait croire que si Dieu était vraiment parfait, alors il aurait créé 50% de bien, de vérité, 50% de mal et de mensonge. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la vérité est bien plus attirante que le mensonge. La vérité, elle est vraie, elle est réelle. Le mensonge, c'est rien. Le mensonge, c'est rien. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il crée un tout petit peu de vérité, on va dire un millième, je pense, peuple juif avec sa Torah, et 999 millièmes de mensonges. Et tu vois le monde entier qui va dans le mensonge. Faire de l'argent, kiffer les filles, le Club Med, tatati, tatata, tatata. Surtout pas dire, oulala, Dieu, tu me saoules avec ces histoires-là, laisse-moi tranquille. D'accord? Et c'est déjà Dieu, des fausses religions qui sont énormes. Prends l'islam, prends la chrétienté, ça a ravagé le monde entier, le peuple juif, c'est un peuple de rien du tout. Mais il y a une vérité là, et tous les autres, ils n'ont aucune preuve de vérité. Donc dès lors, lorsque tu devras choisir, c'est un choix, un vrai choix, même si tu te dis, tiens, il y a la vérité ici, mais tout le monde fait le contraire, tu as l'air idiot. Quelqu'un, voilà, il en parle dans cette étude, il vient à la yeshiva étudier la Torah. Mais t'es malade. Moi, je me souviens, quand j'étais ici en Israël, j'ai commencé à faire tchouva ici, j'avais entre 18 ans et 21 ans, on va dire, mes familles israéliennes. Je suis allé d'abord étudier un peu de philo à la fac. Ils m'ont dit, mais à quoi ça sert? Puis après, je fais tchouva. Alors là, complètement terminé. Je vais dire, toi, la yeshiva, t'es un nul, t'as pas fait d'argent. Le monde vit comme ça. Il faut faire de l'argent, il faut réussir, ça veut dire avoir de l'argent. Et nous, on ne dit pas du tout. Réussir signifie être. Être. Être d'amplitude divine. Ça, c'est réussir sa vie. Avec ou sans argent, d'accord. Il y a besoin, on va travailler pour avoir de l'argent, mais ce n'est pas le but. Donc, il y a beaucoup de mensonges pour peu de vérité, ce qui fait qu'on a un monde plein de mensonges, donc plein de mal. Et Dieu nous veut créer ce monde dans sa perfection totale pour nous permettre d'être d'amplitude divine. Très, 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 très bientôt. Et même un peu plus tôt que cela, ma chair viendra, tout le mal va être éradiqué, et il n'y aura plus que la présence divine que tout le monde verra, mais il n'y aura plus du barbitre. C'est maintenant qu'on peut être. Dès qu'il y a dévoilement du Mashiach, Dieu se dévoile, c'est comme la mort. C'est-à-dire, il n'y a plus de mal, le mal est éradiqué, tu n'as plus de libre arbitre, tu n'as plus de mérite. Mais il y aura, ça sera très bien, on va kiffer. C'est comme quelqu'un qui kiffe au paradis, mais il ne peut plus agir. Donc nous, on va encore agir, mais on n'aura pas de libre arbitre, ou très très peu, parce qu'on n'aura plus les tentations du mal. Voilà, en cela, je crois qu'on a expliqué le pourquoi et le comment de la création du monde avec tout. Attends, il faut comprendre qu'à la base, Dieu ne voulait pas un monde aussi mauvais que cela. Il a créé le premier homme, le vendredi de la création. Et le premier homme, il est devenu opérationnel environ à la sixième heure de la création du jour. Il restait encore 6 heures à tenir jusqu'à Shabbat. S'il tenait bon, il avait déjà la tête dans la divinité. S'il tenait bon, Shabbat, tout le corps passait dans la divinité, le monde était terminé, un bonheur fantastique avec les enfants, tout ça au paradis. Et il a péché. Et il a péché. En péchant, il est arrivé dans ce monde terrible. Quand il a péché, il a fait tomber toutes les parties de son âme dans la mort et a donné vie à la mort. ça crée beaucoup de morts vivants. Les morts vivants, c'est tous les grands ennemis d'Israël, Hitler, Torquemada, Staline, Bachar el-Assad, d'accord, etc., etc. Tout le mal qu'il y a dans le monde. Donc Dieu a créé un mal qui était petit, le premier homme. Pourquoi il a péché? Pas simplement comme ça, allez, on va goûter le fruit, ça a l'air bon. Il a fait un calcul, il a dit, aujourd'hui, si je tiens bon, alors je vais gagner, mais je vais gagner peu. Parce que j'avais peu de libre arbitre. Je veux agrandir mon taux de libre arbitre, comme ça j'aurai plus de mérite. Comment je vais faire? Je vais pécher. Et quand il a péché, le Yessara, le mauvais penchant, le serpent était... Le serpent, c'est rien, c'est écrit que le citra, le côté négatif, est rentré dans le serpent. D'accord? Est venu le tenter. Maintenant, quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, le mal est rentré en lui. Le mal était extérieur au premier homme. Donc, facilement, il pouvait le vaincre facilement. Quand il est venu rentrer en lui, il est dans toi maintenant. C'est beaucoup plus dur de le vaincre. Donc, tu as plus de libre arbitre. C'est vrai. Je gagne. Mais regarde, c'est 6000 ans de souffrance terrible que le monde a amené. Et Dieu a interdit. Il ne fallait pas aller contre la décision de Dieu. Néanmoins, il a péché. Et par cela, l'homme a eu beaucoup plus de libre arbitre. Donc, il y a beaucoup plus de mal dans le monde. Et Bezrat Hashem, très bientôt, le peuple d'Israël a fini sa mission, revient en terre d'Israël, Mashiach vient, et on va rentrer dans la même situation qu'il y avait au paradis, de bonheur complet, Bezrat Hashem. Oui. Le premier homme, c'est clair, il a fait une grande, grande tshuva, il est au paradis, c'est clair. Non, 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 il est au paradis, c'est clair. Il a fait une tshuva énorme, pour... tellement regretté. D'abord, il n'a plus de relation avec sa femme pendant 135 ans. 130 ans ou 135, je ne sais plus, 130 ans. 135 ?
Ouais, mais on rapporte en plus, que, je ne sais pas, c'est un ami qui m'a dit, moi, il m'a dit que quoi, par exemple, pendant les 130 années où il n'était pas avec sa femme, il faisait des batailles.
Ouais, c'est juste, c'est juste, c'est juste, aussi. Rien que cela, tu comprends ? Non, non, il a pleuré jour et nuit, là, voilà. D'autres questions ? C'est bon, tu as la réponse à la question ? Oui.
J'ai appris un midrash, monsieur qui m'a raconté qu'en fait que le Satan, le serpent, celui-là, c'était un homme.
Ouais. Non, il ressemblait, le premier le serpent originel, il ressemblait à un homme. D'abord, on voit qu'il a été maudit, que Dieu l'a coupé les pattes. Donc il avait des pattes, il avait des jambes, mais il marchait tout droit. Et il parle à Ève, et il voulait coucher avec Ève. Le péché originel, c'était ça. D'accord. Baruch Adonai, la'olam, amen va amen.